Quand vous étudiez le statut de l'âme dans la vie éternelle dans les autres religions, comment se passe la vie éternelle dans les autres religions, eh bien, vous êtes un peu surpris par la pauvreté du discours. Par exemple, dans le judaïsme, on ne dit pas grand-chose. On parle du monde des morts, le Sheol. On parle du monde à venir, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie éternelle? Pas grand-chose. Dans l'islam, c'est assez pareil, comme on imagine qu'au fond, la vie éternelle va être une source de plaisir, comme aussi le plaisir ici-bas. Donc il y a une transposition de l'un vers l'autre. Dans les sagesses asiatiques, ce sont des sagesses. Rappelez-vous, il n'y a pas de transcendance, et surtout, il y a une réincarnation. Là aussi, pas de discours particulier sur le statut de l'âme dans la vie éternelle. Et on comprend pourquoi. Parce que pour savoir quelque chose de ce qui se passe dans la vie éternelle, eh bien, il faut connaître le Messie. Il faut que quelqu'un qui vienne de la vie éternelle nous disent ce qui s'y passe. Donc c'est assez légitime et assez logique. Et dans notre foi catholique, nous avons tout un discours tout à fait fourni sur la vie éternelle. Hier, nous avons médité sur ceux qui sont en pleine communion avec le Seigneur, la Toussaint. Et c'est vrai que parfois, dans la mentalité populaire, on confond la Toussaint et le jour des morts. Mais vous voyez bien, ce sont deux fêtes très différentes. On commémore le fidèle défunt. Mais hier, on a fêté ceux qui sont dans la pleine communion avec le Seigneur, ce qu'on appelle le paradis. Mais il y a une autre manière d'être dans la vie éternelle. Il y a deux autres manières d'être dans la vie éternelle. Il y a le purgatoire et il y a l'enfer. Le purgatoire, c'est-à-dire que l'âme n'est pas en pleine communion. Il n'y a que l'amour qui rentre dans la vie éternelle. Il n'y a que l'amour qui rentre dans la vie éternelle. Et donc, on prend bien conscience que dans nos âmes, dans nos manières d'agir, il y a des tas de scories qui fait que dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres, nos manières de parler, d'agir, c'est ce que nous avons dit au début de cette célébration en demandant pardon, eh bien, il va falloir purifier quelque chose. Mais qu'est-ce qui purifie? Ce qui purifie, c'est l'amour. Ce qui purifie, c'est la vision que la personne défunte a de la plénitude de Dieu, cette plénitude d'amour, c'est cette vision-là qui va la purifier. La purifier pour que, précisément, elle ait le désir de se laisser agir par Dieu, parce que qu'est-ce que c'est que la plénitude dans la vie éternelle, si ce n'est se laisser agir par Dieu, au fond, rentrer dans la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres, c'est la première des béatitudes, celle qui les résume toutes. Et donc, se laisser agir par Dieu, et on voit que, voilà, donc l'âme, il y a un travail intérieur, il y aura quelque chose que le Seigneur devra laisser faire ou qu'il puisse agir pour qu'elle puisse aller vers à la rencontre de Dieu dans la plénitude. Et nous avons un rôle à jouer. Nous croyons aussi que nous pouvons prier pour nos fidèles défunts. C'est vrai que ce n'est pas forcément très répandu, hein, la prière pour les âmes du purgatoire, un petit peu plus avec le sanctuaire de Montlignon, vous savez, que repris par la communauté Saint-Martin, où c'est la vocation particulière, mais on peut dire que ça n'a pas, beaucoup d'écho dans le peuple chrétien, alors que c'est quelque chose d'important de prier pour que ces personnes qui sont déjà dans la vie éternelle juste se laissent faire. N'oppose pas de résistance. Mais il y a un troisième statut dans la vie éternelle, c'est l'enfer. Et là aussi, on ne peut pas dire qu'on prêche beaucoup sur l'enfer, mais ça fait partie de notre foi catholique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, l'enfer est en Dieu, parce que nous allons vers Dieu, nous allons vers l'amour de Dieu. De toute façon, les saints, c'est la plénitude. Pour ceux qui sont, ont besoin d'être purifiés, eh bien, cet amour de Dieu va aller à la fois les consoler et va leur donner une manière d'entrer en communion plus plénière. Mais pour les damnés, pour ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu, connaissant l'amour de Dieu, le rejeter, c'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, alors que pour les saints, c'est une source de joie, pour ceux qui sont damnés, l'amour de Dieu est une source de souffrance. C'est voir l'amour comme une source de souffrance. Autant dire que aller en enfer, ça demande un certain nombre. Déjà, premièrement, ça demande de connaître Dieu. On n'y va pas par inadvertance, si vous voulez, c'est parce qu'on s'est trompé de porte. Non, on n'y va pas par inadvertance. On ne va pas en enfer parce qu'on a eu une distraction dans la prière. Heureusement, parce que là, on serait un peu mal barré. Non, on va en enfer parce qu'on connaît Dieu. Donc, ce n'est pas ceux qui ont des doutes de foi, dans la foi, ou ceux qui... Non. Et on connaît Dieu. Et on voit que l'Église dit qu'il n'y a que les Satan et ses anges qui l'ont suivi, qui connaissent Dieu. Satan n'a pas de doute sur l'existence de Dieu. Absolument pas. N'a pas de doute sur l'amour de Dieu. Simplement, il le refuse. Donc, il n'y a que Satan et ses anges que l'Église affirme d'être en enfer. Donc, c'est intéressant de reprendre conscience de ça. Mais parfois, certains, ça, c'est aussi une possibilité, l'enfer, n'oublions pas. N'oublions pas de personnes qui ont fait des expériences de l'amour de Dieu, mais qui, par orgueil, parce que c'est bien l'orgueil qui conduit en enfer, c'est par orgueil le rejettent. Ces différents statuts de l'âme, si on peut s'exprimer ainsi, état de l'âme dans la vie éternelle, nous fait prendre conscience de quelque chose de très important. C'est que nos actes retentissent dans l'éternité. Nos actes retentissent dans l'éternité. Ce que nous vivons ici-bas a des conséquences dans l'au-delà. Et ça a des conséquences jusque dans le statut de, à la fois de saint, mais aussi le statut de personnes qui sont en chemin, ont besoin d'être purifiées. Mais la vie éternelle a aussi des conséquences ici-bas. Il n'y a pas que nos actes qui ont des conséquences dans la vie éternelle, mais la vie éternelle a des conséquences ici-bas, par exemple. Quelle est la différence entre l'enseignement public et l'enseignement catholique? Vous me direz, qu'est-ce que ça a un rapport, qu'est-ce que ça a à voir avec la fête d'aujourd'hui? Eh bien, ça a à voir. Parce que dans les deux cas, dans les deux formes d'institutions, il y a des gens très dévoués, il y a des parcours académiques très brillants, il y a des manières de faire qui sont tout à fait intéressantes, mais dans une institution catholique, si elle est fidèle à sa propre vocation, eh bien, on éduque le jeune, l'enfant, jusque dans sa destinée finale. On prend la personne jusque dans cette capacité qu'elle a de contempler Dieu dans l'éternité. On l'accompagne dans cette manière de vivre, parce que la vie éternelle, c'est une manière de vivre. Le fait d'être parent, beaucoup d'entre vous, vous êtes parents ou grands-parents, etc., ou des parents qui sont croyants, des parents qui ne sont pas croyants, il y a des plus ou moins bons dans les deux camps, j'allais dire, mais ce n'est pas le sujet, mais quand on est croyant et qu'on est parent, c'est qu'on éduque l'enfant aussi avec cette perspective qu'un jour, il sera appelé à contempler la gloire de Dieu. Donc vous voyez, la vie éternelle n'est pas sans rapport avec notre monde d'aujourd'hui, où on pourrait dire, oui, je me centre sur la vie éternelle, je me désintéresse absolument des réalités terrestres, voilà, qui sont tellement basses. Non, moi je suis un pur esprit, moi je suis quelqu'un qui suis absolument dans la contemplation de l'être en tant qu'être. Ce n'est pas du tout notre foi catholique. Et c'est assez intéressant de voir que les premiers chrétiens qui croyaient en la vie éternelle, eh bien, ont été les premiers aussi dans la charité. Et on voit par exemple ceux qui se consacrent dans la vie religieuse, parce que la vie religieuse, c'est précisément ça. Hein, la vie religieuse, c'est un poteau indicateur vers la vie éternelle. Hein, c'est ça, les religieux, ils indiquent un chemin. Mais on voit bien que dans la vie religieuse est très impliquée de par le monde auprès des plus défavorisés, et tant pour l'éducation de la foi que pour les œuvres hospitalières ou l'éducation. Donc on voit bien que, et c'est ça, il n'y a qu'une sorte de, j'allais dire, de tension, ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Oui, nous avons cette certitude que nous sommes appelés à la vie éternelle. Oui, nous croyons que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. C'est Jésus qui nous le dit, que nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ. Nous venons de le lire dans Saint Jean. Et à la fois, on sent qu'il n'y a pas une plénitude, nous sommes en chemin. Cette tension entre le déjà et le pas encore, qui est typique du chrétien. Oui, c'est typique du chrétien. C'est celui qui a la certitude de l'au-delà et a la certitude aussi qu'il est attendu ici et maintenant. Alors oui, ça a accepté une tension. J'allais dire qu'il n'y a qu'au cimetière où il n'y a pas de tension. Là, nous sommes complètement détendus. Mais là, évidemment, pour nous, nous sommes dans... Parce que précisément, nous prenons conscience de l'imperfection de la réalité quotidienne. Nous aspirons à une plénitude. Dans notre cœur, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance d'une plénitude. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous aspirons à cette communion plénière. Et pourtant, ce que nous constatons ici-bas, c'est les conflits, c'est les luttes d'ego, voire les luttes fratricides, voire les guerres, etc., etc. Le chrétien, c'est celui qui a la lumière de la plénitude et en même temps la force de l'engagement. Vous voyez, je trouve que c'est très beau. C'est notre foi de ce fait-là, elle est très belle parce qu'elle nous fait tenir les deux ensemble. Et souvent, les hérésies dans l'Église, hein, il y a eu des hérésies concernant ces réalités de la vie éternelle, ces hérésies dans l'Église, précisément, c'est qu'on a voulu faire uniquement un et laisser l'autre, ou uniquement l'autre et laisser l'un. Uniquement dans la vie éternelle, voilà, nous sommes purs comme des anges, voilà, c'est ça qui nous donne les choses de ce monde, non. Ou alors, on voit, parce que ça a été aussi la préconcile très impliquée dans les réalités sociales, mais pas du tout dans les réalités spirituelles, comme s'il fallait opposer le social et le spirituel, alors que social et spirituel s'appellent l'un l'autre, évidemment. Parce que la plus grande pauvreté, c'est la pauvreté spirituelle, évidemment. C'est ce que rappelle le pape Léon XIV dans son dernier document. Donc c'est intéressant que nous-mêmes, nous fassions mémoire, ça tombe un dimanche, et donc nous avons cette possibilité de réunir le peuple chrétien pour parler des fins dernières et de découvrir que nous-mêmes, où est-ce que nous en sommes par rapport à cette certitude des fins dernières. Et cette question de la mort, parce que c'est une vraie question, on voit bien avec nos chers députés, voilà, et on sent que c'est là aussi, comme on a perdu de vue la vision chrétienne de la personne humaine, du coup, voilà, on se pose la question de l'euthanasie, de ceci, de cela. Ben non, le chrétien, c'est celui qui croit à la dignité de la personne humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Parce qu'il est habité, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein, tu ne tueras point. Oui, donc, je trouve ça très beau de méditer sur ces réalités-là qui nous attendent, parce que ça nous enthousiasme, ça nous donne une espérance, ça nous relance dans l'espérance. Vous voyez, ça nous relance dans l'espérance, parce qu'on peut être découragé aussi par ce monde, voire découragé par nous-mêmes. Voilà, on se dit, mais rien n'avance. Et puis, on voit bien, ça c'est intéressant. Beaucoup de gens disent, mais non, on ne va pas mettre un enfant en route, regarder le monde comme il est, etc. Et le réchauffement climatique, et ceci, et toutes les guerres, etc. Voilà. Mais le chrétien, il voit le monde tel qu'il est, et en même temps, il est très attaché à transmettre la vie. Oui, quand on est croyant, on est attaché à transmettre la vie parce que nous contemplons déjà, nous avons la vie éternelle en ligne de mire. Vous voyez, je trouve qu'on va demander au Seigneur de façon particulière de reprendre conscience de ça, d'être attentif à la manière d'agir. Ça a des conséquences bien au-delà de la réalité terrestre. Et c'est pour ça que nous aussi, nous nous confessons, parce que nous demandons pardon au Seigneur, parce que nous voyons aussi qu'il y a des tas d'impuretés en nous. Et nous demandons pardon pour être prêts. Et la mort, nous la voyons comme une rencontre. C'est une rencontre. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Hein, quand on a la foi, quand on est dans la confiance, foi et confiance, c'est pareil, eh bien, c'est une rencontre, la mort. Hein, alors, oui, bien sûr qu'on est triste, on est dans la tristesse, on est dans les larmes, etc. On voit bien Jésus lui-même qui a pleuré sur Lazare, etc. Hein, mais on sait très bien aussi que ce n'est pas la fosse qui nous attend, mais c'est la gloire qui nous attend. C'est la gloire qui nous attend. Vous savez, le lieu où nous sommes est un lieu très particulier parce que c'est un lieu qui, donc fondé au Moyen-Âge, etc., qui était une infirmerie qu'on appelait aussi salle des morts. Salle des morts, ce qui dit un peu l'état de l'avancée de la science à l'époque, on ne restait pas très très longtemps. Mais je pense souvent, quand je rentre ici, vous voyez, je me dis, la dernière réalité terrestre que les moines d'alors ont contemplée, avant de contempler le mystère de Dieu, eh bien, ce sont ces pierres. Ce sont ces pierres. C'est cette dernière réalité terrestre, des milliers de moines ont contemplé ce lieu. Et quand leurs yeux se sont fermés, c'est la gloire de Dieu qui était aussi à leur rencontre. C'est un lieu qui est habité. Hein, c'est la salle des vivants. Nous sommes précédés par une cohorte de saints. Alors on va demander au Seigneur de se remettre le cap là-dessus, parce qu'on oublie, hein, on sait bien que la mémoire, c'est cette faculté d'oublier. Donc, du coup, on oublie, on voit bien qu'on perd de vue. Puis tout est fait pour qu'on oublie. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Comme disait Bernanos, la société moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et oui, alors on va se remettre face à cette réalité-là et on rend grâce à la liturgie d'avoir fait tomber cette commémoration des fidèles défunts dimanche pour que nous puissions, nous aussi, être habités par l'au-delà. Amen.